Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Salut les fous du volant, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre podcast 100% consacré à la Formule 1 avec mon ami Stéphane Vrignot. J'espère que tu t'es remis
ça, c'est fait, c'est bon.
Tes nuits floridiennes, Stéphane.
En forme alors.
Eh bon, on a le sourire. On se remet tout juste du décalage horaire avec Miami où s'est déroulé donc le 5e Grand Prix de la saison. Un décor assez loin des habitudes de la Formule 1. Circuit pas dénué d'intérêt. On va essayer de faire le bilan des plus et des moins de ce premier passage de la Formule 1 en Floride. Alerte rouge pour Ferrari, Verstappen est passé en mode champion du monde à Miami lors du 5e Grand Prix de la saison. Le Néerlandais, 3e sur la grille, a régné sans partage durant la course et il revient à 19 points de Charles Leclerc au championnat. Et puis Hamilton déguisé en Mr. T, Vettel polémiste en caleçon, les champions marchent sur la tête. On a assisté, c'est vrai, à des scènes assez étonnantes dans le paddock, drôle pour tout dire, grâce à des pilotes qui... font de la résistance face aux règles d'équipement de sécurité. Mais l'affaire, en fait, nous paraît nettement plus sérieuse qu'il n'y paraît. C'est ce qu'on évoquera aujourd'hui dans Les Fous du Volant. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et aussi à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute les fous du volant aujourd'hui avec Miami qui accueillait pour la première fois un Grand Prix de Formule 1 autour du stade de foot américain des Dolphins de Miami, le Hard Rock Stadium, un décorum assez loin des standards de la Formule 1. Alors évidemment, on a beaucoup raillé la fosse Marina. Il y avait manifestement un côté kitsch que les Américains assument plutôt sans se forcer. Et dans le fond, c'était pas désagréable. Stéphane, on va revenir sur ce rendez-vous qui a un petit peu bousculé nos habitudes. À commencer donc par le décorum, ce stade de football américain, ce circuit installé autour. Déjà une première impression d'ensemble et puis ensuite on parlera et du circuit et du reste. Le décorum déjà, Stéphane.
Comme tu l'as dit, Gilles, c'est kitsch, c'est tout est en stuc, en carton-pâte, ça ressemble un petit peu à du faux, mais c'est complètement assumé et c'est ce qu'on attendait de Miami. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Et puis non, ça correspond bien à la ville. À l'origine, ils voulaient être sur le front de mer, avec les palmiers, etc., une ambiance un petit peu plus balnéaire. Mais
on m'avait dit Miami, Formule 1, j'ai pensé Ocean Drive. Bon, non, c'était pas possible.
Mais là, en fait, ils nous amènent sur l'un des antres du football américain. Et c'est pour nous raccrocher finalement à ces grandes épreuves aussi. Il y a eu des airs un petit peu de Super Bowl aussi dans tout ce qu'on a vu un petit peu partout. Et c'était aussi un petit peu le message qu'il fallait délivrer. Et je trouve que c'est pas mal. En tous les cas, ça représente une offre inédite, différente, qui vaut le coup vraiment d'être creusée.
Oui, c'est vrai. Et en fait, moi, ça m'a confirmé un petit peu l'impression de schizophrénie que j'ai depuis quelques temps dans ce monde de la Formule 1, avec d'un côté, tu sais, t'as vraiment deux cultures là qui de plus en plus doivent cohabiter en Formule 1. Ceux qui vont à Monza en regardant l'anneau qui date, je crois, des années 30 ou des années 20, quelque chose comme ça, et donc qui vivent la Formule 1 avec cette espèce d'héritage, avec ce côté historique aussi, en même temps que la modernité et le sport vraiment absolu, total, et puis donc ce côté qui se développe de plus en plus et qui est clairement la volonté des nouveaux détenteurs de droits de la Formule 1 avec du spectacle. Vraiment, tu as employé le mot Super Bowl. J'avais l'impression avant le Grand Prix que c'était la mi-temps du Super Bowl avec sa cohorte de vedettes. On va d'abord s'intéresser au circuit en lui-même, un tracé qui fait 5,4 km avec deux grandes lignes droites, une portion franchement plus sinueuse dans le deuxième secteur. J'ai trouvé plutôt pas mal le tracé en lui-même.
On est allé vers la facilité quand même, Gilles. Deux grandes lignes droites avec des épingles au bout pour être bien, bien sûr que là, on va avoir un point d'arrêt qui va se passer des choses. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs. Il y avait même trois zones DRS. La première qui a servi et qui a été décisive en plus pour l'attribution de la victoire. Donc là-dessus, je dirais que les architectes connaissaient leur partie par cœur. Donc on n'a pas été trop surpris de ça. C'est la chicane qui a défrayé un petit peu la chronique. Verstappen a dit que c'était plus pour du kart. Voilà, ça n'a pas trop plu aux pilotes. L'organisateur a dit que c'était un mal nécessaire. Bon, on verra, mais il est prêt en même temps à revoir un petit peu le tracé sur d'autres aspects aussi. Mais je dirais que ce qui était un petit peu un soulagement, c'est que ça tranche complètement avec les circuits urbains américains qu'on nous a proposés.
Oui, le seul petit regret, de droit.
Voilà, c'est ça. Le seul petit regret que j'ai, c'est que c'est un circuit qui n'est pas permanent. J'aurais aimé que ce circuit soit habité toute l'année par d'autres épreuves. Et si on veut un circuit aussi qui respire un petit peu la compétition, eh bien, on pouvait regarder Eurosport ce week-end avec Spa, le nouveau Spa qui s'est renouvelé encore, qui s'est réinventé, qui accueille de l'endurance, qui accueille de la Formule 1. Et on aime un petit peu ce côté-là aussi qu'on a à Austin. MotoGP, endurance, Formule 1. Et Miami était fait un petit peu pour ringardiser ce genre de circuit qui a une importance fondamentale dans l'essor de la Formule 1 aux États-Unis. Il va garder son caractère aussi, mais à Miami, on a vraiment franchi un cap. On verra ce que ça donnera. On en reparlera sur d'autres aspects.
Exactement. Alors, on a parlé du tracé, la forme
oui,
du circuit en elle-même. Bon, il y a eu en revanche un vrai souci sur l'enrobé, hein, le revêtement ouais. qu'on a mis sur ce circuit. Les organisateurs qui ont même été obligés de s'y reprendre à plusieurs reprises, refaire des patchs parce que tout simplement, ça se désintégrait sous la chaleur déjà, la puissance des voitures. On s'est un petit peu loupé dans ce
mélange de lime rock et de granit qu'on a importé d'un état voisin. Alors, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'en Formule 1, tout est normé. Là, on se dit que le bitume n'est pas, je dirais, homologué et c'est l'organisateur local qui fait un petit peu les choses à sa façon.
C'est très étonnant parce que ça fait partie des questions que je voulais te poser. Ne peut-on pas imaginer un cahier des charges sur les matériaux à utiliser? Je pense que c'est une des prochaines étapes que la FIA, en l'occurrence, ou les détenteurs de droits de la Formule 1 auxquels ils devront vraiment s'intéresser. Il va falloir quand même stabiliser des qualités.
Ça a été un problème parce qu'il y avait 60% de granit dans ce mélange et Ricciardo a dit que le souci, c'est qu'il y avait des petits bouts de granit, de pierre qui se détachaient en fait de la piste au passage des voitures et qui se mettaient de part et d'autre de la trajectoire. Alors d'habitude, on a les marbles qui sont des petits bouts de gomme qui sont détachés des pneus et là, on avait plutôt des cailloux, des choses comme ça qui rendent vraiment les passages en hors-piste compliqués, même un petit peu dangereux. Et effectivement, c'est ce que les pilotes ont dit. Il y a une seule trajectoire. C'est devenu monotrajectoire. C'est un circuit. Je crois que c'est Ricciardo qui l'a dit, unidimensionnel. Et c'est ça le souci aussi. C'est ce qui a été manqué de ce point de vue-là. Les organisateurs ne pouvaient pas l'anticiper. Maintenant, Tom Garfinkel, qui est qui était le promoteur en fait du Grand Prix, en est conscient parce qu'il a dit si tout le monde est obligé d'utiliser la même trajectoire, ça veut dire qu'on se décale pas et on dépasse pas. Et le but, c'est d'avoir le plus de dépassements possible.
Alors, en l'occurrence, c'est un des rares endroits dans le monde où, figure-toi, que j'ai roulé. Alors, non pas en Formule 1, heureusement, mais fut une époque où j'étais essayeur moto et je suis allé rouler un petit peu sur le circuit de Homestead, Miami, donc qui est pas très très loin. Je peux dire que les revêtements en Floride, c'est pas comme chez nous. Hein. Vous mettre du béton sur la piste, c'est pas un problème pour eux. Donc là, il y a aussi un travail à faire des organisateurs qui, au premier Grand Prix de Formule 1, se sont plantés sur l'enrobé de la piste. Il y en a eu beaucoup. On va aller pendant 10 ans à Miami. Ouais. Et on peut à peu près être certain que ce problème sera résolu pour l'année prochaine.
C'est ce qu'a dit Alonso quand même. Double champion du monde, le vétéran du circuit, il a dit que le bitume n'est pas aux normes de la Formule 1. C'est quand même un propos fort. Donc, mais je dirais, il y a peut-être que ça qui n'a pas bien fonctionné.
Clairement. Alors, est-ce que Cette grille de départ version Super Bowl doit devenir un standard en Formule 1. C'est vrai qu'on a vu à peu près tout ce qu'on peut imaginer comme type de vedette américaine sur cette grille de Formule 1 du Grand Prix de Miami. Parfois même, c'était même un peu gênant parce qu'il y avait certaines d'entre elles qui ne savaient absolument pas de quoi
Il y en a qui étaient partis loin, là, on les sentait.
De quoi ça causait.
À Las Vegas, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais...
oui, c'est ça. Il va y avoir une concurrence, une surenchère entre les trois Grands Prix qu'il y aura aux États-Unis l'année prochaine.
Je ne
sais
d'accord.
pas jusqu'où ça va nous conduire, mais attention, on n'est pas loin de choses absolument ridicules. Mais ça va être rigolo. Il y a une intervention qui a attiré ton attention, Stéphane, c'est celle de Laurent Rossi, le patron d'Alpine, chez nos confrères de la télévision belge, et qui évoque justement hein, ce nouveau standard, peut-être, de à la fois d'organisation et de relations publiques autour des événements de Formule 1.
Oui, alors lui, il a dit que c'était quelque chose de complètement nouveau, la Formule 1 entrait dans une nouvelle dimension, et il y avait une sorte de surenchère, on va dire, de mieux-disant. Donc ça, c'est intéressant, mais c'est ce qui met, pour lui, les Grands Prix européens en danger. Clairement, il a
danger,
dit pour
c'est
autant...
un terme fort.
Enfin, danger. Je résume son propos. Il dit qu'ils sont surnuméraires par rapport d'accord. à l'offre aujourd'hui. Historiquement, la Formule 1 était surreprésentée dans le calendrier. Il faut changer ça. Bon, très bien. Il dit pour autant, il ne faut pas les oublier. Et il faudra peut-être faire une rotation des Grands Prix.
La fameuse alternance dont on nous voilà. parle de plus en plus régulièrement.
Tout à fait. Parce qu'il dit qu'il va falloir que ces Grands Prix-là aussi se mettent au niveau. Alors, c'est un petit peu compliqué. Il va falloir qu'ils se mettent au niveau, mais... Comment justement ? Parce que je me souviens, moi, quand le Grand Prix de Chine est arrivé, c'était en 2004, je crois, en Formule 1, tout le monde a été choqué, je dirais, par la taille, qui était presque pas à taille humaine, des installations. Ouais. Alors, est-ce que des buildings autour du circuit qui faisaient 5, 6, 10 étages, je ne sais pas, de hauteur, étaient quelque chose de mieux pour la Formule 1 ? Ça, je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il faut verser vraiment dans le gigantisme ? Est-ce qu'on doit avoir ça à Monza ou... Bon, à Monaco, c'est clairement impossible.
Non.
La place est comptée, donc on restera là-dessus. Et c'est vraiment ça qui pose question. Mais bon, je dirais qu'il y a quelque chose à faire. C'est vrai que maintenant, les autres circuits vont se sentir un petit peu obligés. Et puis, dans cette ambiance aussi que les patrons d'écurie ont senti, il y a Fred Vasseur qui a parlé aussi à nos confrères de la RTBF et qui a dit que c'est le plus gros événement de l'année, incontestablement, qui a une demande extraordinaire. Il y a une demande extraordinaire des médias et spécialement aussi des sponsors qui voulaient faire plein de choses autour des pilotes, mais aussi autour des membres d'équipe. Et lui, il a dit, notre souci quand même, c'est que si on cède à ça, on ne peut plus travailler. Or, on doit travailler comme d'habitude sur un Grand Prix normal. Donc, il va falloir réviser un petit peu ces choses-là, cadrer un petit peu la dimension, parce que est-ce que plus grand, c'est mieux ? Je ne suis pas sûr, mais il y a quelque chose à faire là-dessus. Et je sais que... quand on va à Las Vegas,
ouais.
on aura ça. Bon, mais après, comment est-ce que ces circuits-là vont s'adapter ? C'est la grande question.
J'ai envie de dire, en conclusion, jusqu'où s'arrêteront-ils ? Parce que c'est un peu ça l'idée chez nos amis américains. Bon, là, il y avait l'effet cumulé de la nouveauté et de l'esprit qui règne en Floride, et tout particulièrement à Miami, qui a rendu ce rendez-vous absolument spectaculaire. Donc voilà, il y a des axes d'amélioration, mais... on est pressé de voir comment ça va évoluer.
Alors par contre, Gilles, effectivement, on en a pris plein les yeux. Il y avait plein de stars. Il y en a beaucoup, on ne savait pas trop pourquoi ils étaient là. Mais j'ai quand même noté la présence de Michael Jordan. Alors respect déjà. Et en plus, parce que sa carrière de basketteur. Et puis, il est propriétaire d'une écurie de NASCAR. Donc, il y a des gens qui étaient là vraiment pour être dans l'ambiance. Tony Parker aussi est un fan de Renault. Il était invité, il était là, il était content d'être là. Donc il y a quelque chose à faire autour de ça.
Les grands sportifs, pour moi, ont toujours leur place sur ouais. une grille de Formule 1. On a vu récemment des échanges entre Lewis Hamilton et Valentino Rossi. On a cette photo, Lewis Hamilton, Tom Brady, ouais. David Beckham et Michael Jordan. Voilà, c'est des champions ouais. planétaires, évidemment. Après, il y a des vedettes du showbiz qui sont là. Et alors là, franchement, dès que vous leur demandez, ouais, bah, c'est à quatre roues, c'est une voiture, je ne sais pas bien, excusez-moi, ouais. hop, bon, ok, très bien. Bon, ça fait partie ouais. du folklore.
Et ça s'est même mieux passé, je te dirais aussi, que l'année dernière à Austin, où Martin Brundle, sur la grille, avait eu quelques petits soucis avec
les services d'ordre de certaines vedettes qui.
De l'industrie musicale qui n'était pas très sympathique. je dirais. Mais
j'avais trouvé, voilà. Il avait été très très bon, Martin Brundle.
Oui, parce qu'en, tout à fait.
En gros, il avait été très facile. Je ne sais plus qui c'était. D'ailleurs, c'est une vedette que moi, je ne connaissais même pas, d'ailleurs, pour vous dire à quel point c'était une vedette.
Une rappeuse.
Ouais, c'est ça. Ouais, bon. Et en gros…
Son service d'ordre, dans voilà, tous les cas, qu'il avait
son garde du corps lui avait dit « Non, tu ne peux pas faire ça ». Et Martin Brundle avait juste répondu, voilà. Ce qui était une super répartie, « Bah si, je peux, la preuve, je viens de le faire ». Bon, bref, voilà. Ça, on n'a pas eu ce genre de problème. Je pense que ça avait été anticipé. Bref. On verra comment ça se passera, notamment l'année prochaine. Et moi, j'attends avec impatience la surenchère entre Austin, donc Miami et Las Vegas. Bon, on va avoir des avions de chasse qui vont se poser sur la grille de départ. Hein. on finira ça. Si c'est pas Elon Musk qui viendra poser, voilà, qui la fera atterrir. Enfin, bon, bref, voilà, on peut tout imaginer. On en reparlera. On va s'intéresser d'un petit peu plus près maintenant au déroulement, on va dire, sportif de ce Grand Prix de Miami dans les fous du volant, avec cette victoire quand même, qui est la troisième victoire en 5 Grands Prix pour Max Verstappen, et une alerte rouge pour Ferrari, parce que ça y est, Max Verstappen est passé en mode champion du monde. Il avait déjà remporté 2 Grands Prix, mais là vraiment… Tout s'est cumulé pour que Max Verstappen soit en difficulté, et bien il a quand même gagné. Il a quand même perdu la moitié du temps des essais libres. Un problème de surchauffe dès la première séance d'essais libres. Il ne fait pas du tout la deuxième sur un nouveau Grand Prix avec un tracé qui est quand même très très particulier. On l'a senti sous pression. Il fait troisième des qualifications sur un circuit en ville. On sait que ce n'est quand même pas l'idéal. Et ben, il règle son compte tout de suite à Carlos Sainz. Il lui faut une dizaine de tours pour prendre l'avantage sur Charles Leclerc. Et derrière, à part la relance après le crash entre Lando Norris et Pierre Gasly, on ne l'a pas senti en fait à portée de Charles Leclerc, ouais, pour le citer, ou d'un autre adversaire. Il était un cran au-dessus, le champion du monde.
Il était un cran au-dessus, Gilles, ce qui m'a choqué vraiment. Il est en mode prédateur, clairement, en mode champion du monde. Tu te souviens de l'agressivité extrême qu'il avait eue dans le dernier tour à Abu Dhabi par rapport à Lewis Hamilton. Il y avait une zone de dépassement qui était sur la grande ligne droite, qui était toute faite pour attaquer Lewis Hamilton. Il n'avait pas attendu, il s'était précipité tout de suite comme un mort de faim sur Lewis Hamilton. Et là, il a dépassé dans la première zone DRS, je dirais, qui n'a pas été tellement utilisée pour des dépassements. C'était plutôt la deuxième ou la troisième. Ça signifie que là, il était au taquet. Il a senti l'odeur du sang, vraiment,
oui,
franchement.
Oui, hein, je suis d'accord.
Voilà, tout à fait. Et là, il attaque tout de suite et il faut exécuter. Donc ça ressemble à une exécution. Et après, je trouve que là où il était impressionnant, c'est que il sait gérer des temps où il est en difficulté, et avec ses pneus médiums, il les a cajolés vraiment. Son ingénieur l'a appelé pour lui dire « tu les gères très très bien ». La question, c'était le pneu avant droit dans cette fameuse grande courbe du virage numéro 7 avec un bitume assez abrasif. Voilà, donc ça, il l'a très très bien fait. Et puis après, il a profité de 2 petites erreurs de Leclerc pour s'échapper, et il a géré un autre temps qui était faible pour lui. Et c'est là où, à mon avis, il fait vraiment, vraiment la différence. C'est au restart, après la safety car, comme tu l'as dit, il n'était pas bien avec ses pneus, il n'était pas en température.
La Red Bull était moins bien avec les pneus durs par rapport à la Ferrari. Hein. C'était clair. Et c'était sans doute là la fenêtre de tir qu'avait choisi Ferrari en se disant là, vraiment, on va avoir l'occasion de régler son compte.
Il a géré ça impeccablement. Et c'est là où tu te dis quand même qu'il est très très fort. Et tu as même l'impression dans le cockpit qu'il sait lire ce qu'est en train de faire Leclerc. Parce que sur des temps d'attaque comme ça, il faut faire un chrono et laisser les pneus un petit peu refroidir pour y retourner. Et il sait exactement où est-ce qu'en est son challenger derrière lui.
Un temps d'avance, tout le temps.
Complètement. Mmh. Il arrive à lire ça, et ça, c'est juste très fort. Si elle a… Vraiment, c'est la marque des grands champions.
Moi, ce qui m'a aussi impressionné, c'est qu'on n'a pas eu, au moment où il y a eu l'accrochage entre Lando Norris et Pierre Gasly, donc intervention de la voiture de sécurité, son avance qui était de 7-8 secondes, je crois, à ce moment-là.
Oui, tout à fait, 7 secondes.
Réduite à néant. Et on n'entend pas à la radio un Max Verstappen plaintif qui… voilà, comme on l'a parfois entendu. Alors, peut-être qu'on ne nous l'a pas mis en réalisation. Je pense que s'il y avait eu un message, on nous l'aurait mis. Et ça, je pense que, voilà, il a franchi ce cap. Il savait que ça pouvait arriver. Donc, au moment où c'est arrivé, il savait que, de toute façon, il allait falloir affronter cette situation. Et tu vois, tu parlais d'un temps d'avance. Miami, c'est la ville des Dolphins de Miami, hein, l'équipe de football. Bah, il y avait aujourd'hui, enfin ce week-end, il y avait des dauphins en piste, puis il y avait un requin. Et un requin qui s'appelait Verstappen et qui les a tous croqués. Alors, est-ce que c'était vraiment et uniquement Max Verstappen qui était au-dessus de Charles Leclerc, hein, pour nommer son rival direct pour la couronne, ou bien est-ce que c'était la Red Bull qui était supérieure à la Ferrari? Quoi, tu sais, on avait évoqué une sorte de mirage du côté du Grand Prix d'Émilie-Romagne pendant la course de qualification qui avait peut-être laissé croire à Ferrari qu'ils avaient le dessus par rapport à la Red Bull. Là, cette première ligne 100% Ferrari, elle a peut-être encore joué le rôle de mirage pour Ferrari, parce que j'ai quand même le sentiment que la Red Bull était au-dessus de la Ferrari, même si ça ne s'est pas concrétisé. Il y a eu une petite faute en qualification en Q3 pour Max Verstappen, sinon je pense qu'il pouvait être en première ligne devant Sainz.
C'était une première ligne Ferrari rétrospectivement par défaut. On l'a dit, Max Verstappen a fait 15 tours. Le samedi, il a dit, après la qualif, j'avais pas eu le temps d'apprendre la piste et encore, je la connais pas bien. C'est-à-dire que pour aller chercher vraiment les derniers détails de réglage, ça lui posait problème. Il a fait avec. Et puis, Perez aussi s'était loupé en qualif dans son premier run et aussi dans le secteur 2 de son deuxième tour chrono. Ça veut dire que les Red Bull auraient pu être 1 et 2 sur la grille aussi et là mettre Ferrari face à la réalité. Alors, la Red Bull, c'est pas une voiture facile quand même à régler.
Oui.
Et elle a une fenêtre d'exploitation des pneus qui est beaucoup plus étroite que la Ferrari. Ça veut dire que vraiment, en permanence, Verstappen est sur le fil du rasoir. Et on nous dit qu'elle a une Vmax de 8 à 10 km/h supérieure à la Ferrari. Ça, c'est vrai. C'est l'arbre qui cache la forêt. Il faut voir tout ce que fait Verstappen à côté pour exploiter cette voiture dont quand même Checo Pérez se sort un petit peu mieux, se dépatouille mieux, je dirais, que l'année dernière.
Exactement. Alors, moi, je suis toujours étonné. On se focalise beaucoup, je trouve, du côté des journalistes ou de ceux qui gravitent autour.
Voilà,
les observateurs, cherchez le mot. Sur la vitesse de pointe, mais la vitesse de pointe, elle est aussi issue de la façon dont vous motricez à la sortie du virage, la motricité de la voiture. Et là, quand tu voyais sur la longue ligne droite, la Red Bull, elle ressortait, mais elle était catapultée.
Ouais.
C'est moins spectaculaire, évidemment, qu'un chiffre où voilà, on te dit y a 10 km/h, 12 km/h, 8 km/h de différence en vitesse de pointe. Mais cette Red Bull, elle est redoutable parce que effectivement, elle a un avantage en vitesse de pointe, mais alors elle a une qualité en motricité en fait, c'est la quadrature du cercle. Si vous arrivez à avoir plus de motricité et à être plus rapide au bout de la ligne droite, je ne sais pas comment vous pouvez être pris
par
vos adversaires. Et d'ailleurs, Charles Leclerc, il l'a dit clairement, c'est une interview que vous pouvez retrouver sur le site eurosport.fr. Depuis deux Grands Prix, la Red Bull est supérieure à la Ferrari et ça se retrouve dans les chiffres, Stéphane. Une petite comparaison. Premier Grand Prix de la saison, Bahreïn. Ferrari marque 44 points. Red Bull, 0. Double abandon. Oui. Voilà. Ça fait 0 pour la firme autrichienne. Sur les deux derniers Grands Prix, donc si on revient, donc Émilie-Romagne et donc Miami, 53 points pour Ferrari, 96 points inscrits par Red Bull. C'est presque du simple au double pour les hommes de Christian Horner. Voilà, il n'y a pas photo.
Et puis les meilleurs tours en course aussi, parce que Leclerc avait pris les trois premiers, ça aussi c'est un message, et Verstappen vient de répliquer. Il commence à tout prendre là, tout simplement. Alors Leclerc a aussi dit quelque chose d'important. Au 24e tour, il a dit j'ai une voiture difficile à piloter. Donc ça c'est quand même un message important, même si il s'est forcé, je crois c'est au tour suivant, à faire le meilleur tour en course pour essayer encore un petit peu de provoquer Verstappen. Mais en termes d'exploitation des pneus, il a dit on est mieux avec les pneus durs, moins bien avec les pneus les plus tendres, c'est-à-dire les médiums et les tendres. Donc. Et puis la Ferrari est mieux aussi, est meilleure dans les virages moyennement rapides et très rapides. Et la Red Bull, beaucoup mieux dans les virages lents. Voilà, c'est un petit peu. Alors, c'est super intéressant parce qu'on a des équations un petit peu différentes. Ça veut dire que d'un circuit à l'autre, ça va encore pouvoir basculer d'un côté ou de l'autre.
Exactement. Alors, il y a aussi Et ça, c'est un phénomène que personne ne pouvait anticiper, l'adaptabilité à ce revêtement qui était quand même très très particulier, sur lequel on a fait des modifications pendant le week-end, et manifestement sur lequel la Red Bull était mieux que la Ferrari.
Et ce qui a causé d'ailleurs un petit peu le début de la fin pour Leclerc, puisqu'il fait une erreur à la fin du 8e tour. Il y a une petite perte d'adhérence dans le virage, à la sortie du virage numéro 17. Et puis là, Verstappen arrive tout de suite derrière. Et là, il le colle, il attaque tout de suite direct. Et là, on a senti que c'était une petite faiblesse de la Ferrari à ce point de vue-là, parce qu'il a corrigé. Donc, il était sur ses gardes, je dirais, Charles Leclerc, à ce niveau-là. Et par contre, je crois, c'est 4 tours plus tard, Charlo, il est un peu long sur le freinage au numéro 2. Non, c'est son surnom, hein, c'est affectueux.
Oui, c'est vrai. Oui, non,
tout
mais
à fait.
Pas de...
non, on ne se permettrait pas. Et puis, bon, par rapport à un grand acteur aussi. Mais il est long au freinage du numéro 16. Et là, il perd le contact carrément. Il se retrouve à 2 secondes 4. Et puis après, l'écart ne fait que grandir. Verstappen en profite. Il enfonce le clou. Et il a perdu un petit peu le contact de lui-même. Je dirais le monégasque, et après il l'a pas vu, sauf avec l'intervention de la voiture de sécurité.
Ce qui va être intéressant, il n'y aura pas de Grand Prix le week-end prochain, mais ce qui va être intéressant, c'est que le prochain Grand Prix, c'est donc sur le circuit de Barcelone, en Catalogne, sur le circuit de Catalogne d'ailleurs, pour être tout à fait précis, et on va boucler la boucle. C'est là que les nouvelles autos avec l'effet de sol étaient apparues à la fin de l'hiver pour les premiers essais. Vraiment, oui. C'est là qu'on avait découvert ces nouvelles autos. Et c'est peut-être là, d'abord, c'est là que les Ferrari et les McLaren s'étaient illustrés. Bon, les McLaren qui ont beaucoup perdu depuis. Mais c'est peut-être là aussi qu'on va voir finalement l'ampleur du travail, la différence entre Ferrari et Red Bull, savoir finalement si Red Bull n'a pas tout simplement fait tout son retard et pris un petit peu d'avance. On sait que chez Red Bull, on avait dit que Ferrari n'arriverait pas à suivre le rythme de développement. Là, Mattia Binotto a dit Red Bull n'arrivera pas à maintenir ce rythme de développement. Bon, ça fait un peu, un peu polémique de bac à sable. C'est pas moi qui y ai, c'est toi. Enfin bon, bref.
Les deux nous parlent aussi des coûts de développement. C'est super important. Et quand Sainz aussi fait de la casse, bah, tout ça, c'est tu le mets ça sur la ligne du débit et puis tu fabriques moins de pièces ou t'hésites. Enfin, c'est un petit peu compliqué. Et puis, tu l'as dit, Gilles, il y a un petit peu la guerre des messages comme ça. Et Christian Horner a été très clair aussi. Et ça va finir par arriver. Christian Horner a dit que pour l'instant, au niveau de la communication, ça se passe bien, mais qu'à un moment, ça va déborder entre Verstappen et Leclerc.
À un moment, je vais lâcher moi.
Ça va être tendu en piste. On va avoir une séquence polémique. Et puis là, je pense que ça va s'emballer. Pour l'instant, tout le monde joue sur du velours, et spécialement Red Bull, qui nous explique qu'ils s'entendent mais tellement bien avec Ferrari cette année. C'est tellement formidable. Le message en creux, c'est l'an dernier, les méchants, c'était Mercedes, parce que comme ça n'allait pas, c'était de leur faute. Voilà. Je pense qu'il faut qu'on attende encore quelques grands prix et que ça va gentiment dégénérer. Je ne le souhaite pas, mais bon, on va y arriver quand même. C'est Christian Horner qui le suggère.
Quelque part, si ça dégénère, c'est bon signe. Ça veut dire que le rapport de force se poursuit tout au long de la saison. S'il n'y a plus de rapport de force, évidemment, il n'y aura pas de dégénérescence entre les deux équipes.
Et on verra, Gilles, aussi si Ferrari se remet un petit peu au top niveau en termes de pit stop. Parce que ils ont servi Sainz, ils ont mis 5 secondes 4 presque pour.
Qui était en confrontation avec Sergio Pérez.
Complètement.
Et on l'a vraiment mis dans le dur, là, Carlos Sainz, qui a résisté jusqu'au bout à Sergio Pérez. Mais voilà, ça fait.
Et puis il y a eu ces problèmes de fiabilité du côté de Red Bull. Donc on en parle à chaque Grand Prix quand même. On s'en sort pas, là, je me dis. Et à un moment, ils vont être au point, mais ce sont des nouvelles voitures. Problème de poids, problème de fiabilité à tous les niveaux. Là, c'est un capteur qui donne une mauvaise information, qui fait faire des erreurs en fait au moteur, lui faire perdre combien 30 chevaux.
Oui, c'est ça.
Donc, ça tombait sur Verstappen, c'était pareil. Donc, on va encore avoir la partie de yo-yo entre les deux équipes, je pense. Ce qui sera très très bien. Je pense que Verstappen peut quand même prendre le lead sur les précédentes.
En tout cas, ça va phosphorer du côté de Milton Keynes et de Maranello pour essayer de reprendre un petit peu l'ascendant du côté de chez Ferrari en arrivant en Catalogne, qui sera donc la sixième épreuve de la saison. Alors, dans Les Fous du Volant, on aime bien les images drôles. Et là, on a quand même été bien servi ce week-end à Miami avec une conférence de presse où j'ai cru voir l'ombre de Mr. T avec Lewis Hamilton qui avait 14 colliers, 3 montres au poignet. Enfin, c'était assez, assez drôle. Et puis, alors là, en voyant Sébastien Vettel arriver avec son caleçon par-dessus sa combinaison, alors là, c'était absolument fabuleux, la classe interstellaire. Total. Il manquait plus que les sandales avec les chaussettes et on était vraiment au top. Alors tout ça pour protester contre le rappel qu'avait fait Nils Wittich, qui est donc l'un des deux nouveaux directeurs de course des Grands Prix de Formule 1. Nils Wittich qui avait commencé la saison. Hein. C'est une histoire qui remonte au Grand Prix d'Australie où le directeur allemand avait quand même fait un petit rappel. Oui. Sur l'équipement que les pilotes doivent porter pendant un Grand Prix. Et il en a remis une couche.
Alors, à Melbourne, ça avait été perçu comme une règle anti-Hamilton et anti-Leclerc, puisqu'il était question de bijoux, mais aussi de montres. Et Leclerc pilote avec sa montre. Bon, on se demande même pourquoi. Parce que...
si tu as le temps de regarder l'heure, c'est
c'est bien. Et puis surtout, c'est du poids mal placé. Enfin bref, c'est contradictoire. Quoi.
Exactement.
Bon. Et là, il en a remis une couche, effectivement.
Oui, il en a remis une couche. Alors avec ce document, alors c'est un peu difficile de le voir comme ça. Mais... Ça fait partie des documents qu'un directeur de course publie. Ça date du 5 mai, donc c'était le jeudi avant le début des essais libres. C'est un document de deux pages. Et Nils Wittich donc, adresse ça à toutes les équipes de Formule 1 avec, ça s'appelle une note, avec un certain nombre de rappels de règlements. Et là, on vous a sorti deux extraits des règlements, les pilotes et les copilotes, puisque c'est un extrait du règlement de la FIA. Donc, ça inclut, par exemple, les épreuves où il y a des copilotes, on pense au rallye, qui sont donc engagés dans ces championnats, doivent porter des gants, des sous-vêtements longs, une cagoule, des chaussettes, des chaussures homologuées selon le standard 88-56-2018.
Bon, blablabla,
voilà.
Ouais.
Ça, c'est du langage technique. Ça, c'est le premier rappel. C'est pour les vêtements. Deuxième rappel sur les bijoux. Le fait de porter de bijoux comme des piercings ou des colliers métalliques est interdit durant la compétition et peut faire l'objet de vérifications avant le départ. On se dit que c'est du bon sens parce que ouais. Là, il y a en fait, si on reprend, les sous-vêtements unisujets. Ben, il suffit de revoir l'accident terrible de Romain Grosjean et on comprend qu'il faut porter des sous-vêtements unisujets. Le problème, c'est que si vous avez une combinaison unisujet, vous mettez en dessous un caleçon comme... je sais pas si tu portes des sous-vêtements, tu es peut-être nu sous tes vêtements, Stéphane, t'en sais rien. Bon bref, si vous avez un caleçon sous des vêtements unisujets et que vous êtes pris dans un incendie, le sous-vêtement qui n'est pas un anti-flamme en dessous va prendre plus de température que la combinaison qui, elle, est au contact des flammes. Donc, ça peut vous brûler. Là, on parle de caleçon, donc tous les messieurs qui nous écoutent penseront très, très bien à certains éléments qui sont particulièrement chers à la jante masculine. Donc, ça paraît évident. Eh ben non, on refuse.
Tu dis qu'il faudrait faire une règle pour les bijoux de famille alors.
Ben je crois quand même.
Mais anti bijoux.
Oui, mais attention parce que les bijoux et la Formule 1, si vous remontez à 2004 au Grand Prix de Monaco, il y a quand même un diamant qui se balade dans la nature et c'est pas du
tout. Il cherche encore 400 000 livres sterling sur la voiture.
Donc ça, déjà, ça paraît être une évidence. Bon, et alors ensuite, il y a l'histoire des bijoux. Effectivement, le métal monte beaucoup plus vite en température que les vêtements unifugés. Et donc, ça peut poser problème si vous êtes pris en cas d'incendie. Mais même sans incendie, vous avez un gros accident. On doit vous transporter très, très vite dans un scanner pour faire des examens. S'il faut commencer à vous enlever les piercings, la montre, l'alliance. Alors oui, effectivement, il y a des pilotes que ça gêne d'enlever leur alliance. Mais il y a des gens qui travaillent dans la sidérurgie comme vous et moi tous les jours et qui, en arrivant le matin au travail, à l'usine, enlèvent leur alliance parce que ça fait partie des contraintes. Eh ben non, là, on a un Lewis Hamilton et un Sébastien Vettel qui se sont élevés contre ça. J'avoue que j'ai eu du mal à comprendre.
Ouais. Alors, tu demanderas au directeur d'équipe, tous te répondront que les pilotes sont des enfants gâtés. Et là, c'est un comportement d'enfant gâté concernant Hamilton et Vettel. Effectivement, j'en viens à l'histoire du scan. On le voit aussi dans la vie de tous les jours. Il faut acheter un casque homologué pour faire du deux roues parce qu'il y a
des gants.
Il y a des gens. qui peignent leur casque avec une couleur qui empêchera en fait le scanner d'être opérant. Donc, quand il y a un accident comme ça à l'hôpital, s'il faut enlever le casque parce qu'il n'est pas homologué, ça peut créer aussi des lésions cervicales. Enfin, on est dans des cas très très concrets de la vie de tous les jours, des choses qui tournent mal. Alors, je te dirais autre chose sur, par exemple, la montre. Un pilote qui fait des tonneaux, qui va se casser un poignet, c'est un truc tout bête, avec une montre à cause de ça, parce qu'il prend un mauvais choc, qu'ensuite il a une incapacité momentanée ou définitive de piloter. Il y a d'autres pilotes qu'on connaît qui ont eu des choses comme ça, pas forcément sur ce cadre-là, mais qui ensuite vont en justice pour faire reconnaître leurs droits, pour faire reconnaître un tort vis-à-vis d'une organisation, vis-à-vis d'une équipe, d'une marque ou quelque chose, ça devient tout de suite très compliqué. On a un accident aujourd'hui de ce type-là, eh bien la FIA peut se retrouver prise dans un feuilleton juridique qu'elle ne va pas maîtriser.
Exactement.
Quelqu'un qui se blesse à un poignet, il va se retourner vers son assurance et son assurance va dire « mais est-ce que c'est à moi de payer ?» Il faut établir la responsabilité. Et là, elle va sonder la FIA, elle va chercher à savoir ce qui se passe, l'écurie, est-ce que la voiture a été conforme. Et aujourd'hui, le problème, c'est que la FIA a dans son arsenal un règlement qui dit depuis 2005 qu'il faut enlever toutes ces choses-là qui peuvent aggraver intervention, un recours. Et son souci…
Rien n'a été inventé, rien n'est nouveau. Hein.
Voilà, c'est ça, c'est de penser au pire pour qu'il n'arrive pas.
Exactement.
C'est ça le souci. Et aujourd'hui, ça touche des gens comme Hamilton et d'autres, ou Leclerc, voilà, qui vont être les premières, entre guillemets, victimes de tout ça. Mais il faut penser à toutes ces générations de pilotes qui vont en bénéficier ensuite.
Là, tu touches un point qui est très important. Tu parles des nouvelles générations. Quel exemple on donne aux enfants qui font du karting ou du sport en termes général et à qui d'immenses champions, parce que Lewis Hamilton et Sébastien Vettel, là on n'est pas d'accord avec leur attitude, honnêtement, ça reste des immenses champions. Et quel exemple vous donnez aux enfants en leur disant « alors moi je veux bien respecter toutes les règles, par contre celle-là ne m'arrange pas et je ne veux pas la respecter ». Non, c'est tout, c'est comme ça, il y a une autorité, il faut la respecter, parce que sinon, alors demain on va voir Christian Horner rentrer dans le paddock avec trois moteurs autour du cou, parce que lui il est contre la limitation à trois moteurs par saison, il en voudrait cinq ou il en voudrait dix. On va voir Fernando Alonso arriver avec des tatouages de jerrican d'essence, parce qu'il veut avoir à nouveau des ravitaillements en essence en Formule 1. Je trouve ça un petit peu difficile, là, quand on sait la valeur d'exemple qu'ont ces deux grands champions. Deux grands champions en plus, et deux grands hommes. Je me permets, là, on les critique, mais vraiment, n'ayez pas d'autres analyses que ça. On a un immense respect pour les deux. Quand Lewis Hamilton s'engage, fait changer les couleurs de Mercedes, s'engage pour le Black Lives Matter, pour l'égalité des droits civiques entre les Blancs et les Noirs aux États-Unis, dans le monde, va revendiquer les droits des LGBT en Hongrie, face à Viktor Orban, faut du courage, faut de la détermination. Quand Sébastien Vettel va organiser une journée de karting avec des femmes en arrivant en Arabie Saoudite, quand on sait tout le contexte qu'il y a, c'est magnifique.
Quand
on voit
un
casque,
voilà.
ou son casque avec qui parle de la montée des eaux, qui met en garde, qui prévient que ce Grand Prix de Miami…
Ça, leur engagement n'est pas contestable.
Voilà.
Ça, il est hautement respectable, il est extrêmement utile.
Et là, c'est le contraste entre l'importance de ces combats-là et la futilité de se dire « bah non, moi, je ne veux pas mettre de caleçon unifugé ». Mais là, on dit « mais…
» Disons qu'ils sont sur leurs intérêts particuliers, ça les touche, on comprend. La démarche de la FIA, c'est de penser à l'intérêt général. C'est juste ça. Alors après, il y a d'autres garçons comme Pierre Gasly qui disent « moi, ça compte beaucoup pour moi d'avoir des objets religieux pour moi quand je roule. »
Non, mais je veux bien
voilà,
que ce soit très
compliqué. Voilà, donc on respecte infiniment ça, parce qu'ils sont un petit peu pris là-dessus. Mm-hmm. Alors après, ce qui est un petit peu difficile à entendre, je dirais entre guillemets, c'est quand Hamilton dit « j'ai obtenu une dérogation de deux Grands Prix » et j'obtiendrai une dérogation pour le reste de la saison, je vais aller voir le président
personne. Je pense que c'est ça qui a particulièrement agacé.
C'est un petit peu too much. Bon, on verra. Il faut trouver un compromis. Y en a-t-il un? Je ne sais pas. Ça pose en tous les cas une vraie question. Il faut protéger tous les pilotes. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Et c'est pour ça qu'à mon avis, là, Nils Wittich, en faisant ce qu'il a fait ce week-end à Miami, je ne serais pas surpris que sur un des prochains Grands Prix, on est en contrôle et que, bah après, faut aller jusqu'au bout, parce que sinon, on va renvoyer tout le monde dos à dos. Il y a le directeur de course a rappelé la règle, ben maintenant, on passe à l'étape suivante, c'est-à-dire, messieurs, allons-y, Montrez-nous que vous n'ayez pas, de montre, de choses comme ça. C'est vrai qu'ensuite, il y a ce problème des objets, on va dire, qui sont relatifs aux croyances, tout ça. Il va falloir trouver une solution, mais on ne peut pas dénoncer ça. Voilà, il va falloir un échange, une réflexion posée. Mais voilà, on voulait juste dire que ça aurait été drôle sur le coup, voir un pilote arriver avec son caleçon par-dessus la combinaison. Depuis Superman, j'en avais pas vu.
Non, mais tiens, tu vois, juste là, ça me rappelle Jacques Lafitte qui s'était pointé en pyjama à Dallas en 84 à 6h du matin lors du warm-up parce qu'il faisait très très chaud.
Et qu'on avait avancé les
films. Mais ça ne m'avait pas fait rigoler Frank Williams quand même.
Non, mais bon. Non, mais c'était drôle pour le coup.
Mais là, par contre, aussi, si la chose un petit peu étrange, c'est que Lewis Hamilton avait l'habitude ces deux dernières saisons de s'exprimer sur les droits des personnes. Et il y avait un protocole qui a été mis en place avant les courses. Il n'y a plus tout ça. Et on a l'impression que c'est important pour lui d'avoir une autre cause comme Vettel. Et je dirais que ça les distrait un petit peu quand même. Ils sont pas au taquet, je dirais, en termes de performance et de résultats.
C'est le moins qu'on puisse dire, oui.
C'est ça. Et j'ai l'impression que ça leur donne aussi un petit peu une contenance en attendant un petit peu la suite. C'est un petit peu dommage. Vettel s'est même posé la question. Franchement, il a dit que ça le branchait pas tellement de courir à Miami, qu'il préférait courir sur des vrais circuits. Comme Road Atlanta.
Mais ça, c'est parfaitement.
Road America, pardon. Road America. Et voilà. Et une équipe d'IndyCar, RAL, lui a lancé une invitation. Donc tu les sens un petit peu aussi ailleurs par moment, tous les deux.
Mais vraiment, moi, voilà, j'ai été choqué par la noblesse de certains de leurs combats. Et puis là, la futilité du truc.
Oui, c'est ça. C'est un petit peu dérisoire. Voilà.
Donc il va falloir trouver une solution. Mais bon, allez. On a l'impression que c'est la folie de ce Grand Prix de Miami a un peu
résultat
troublé
à Monaco,
les esprits.
On verra bien.
Exactement.
Voilà, si ils se sont mis en conformité, puisqu'il n'y a plus que M. Hamilton qui pose problème, entre guillemets.
Bon, il y aura Barcelone avant.
Mais il a une dérogation aussi, je crois, pour Barcelone.
C'est du beau. Bon, voilà en tout cas tout ce qu'on pouvait vous dire après ce Grand Prix de Miami, haut en couleur, à peu près dans tous les sens du terme, et qui voit donc l'écart se réduire. Hein, mine de rien, il n'y a plus que 19 points entre Charles Leclerc et Max Verstappen. Ça se réduit au classement des pilotes, ça se réduit aussi au niveau du classement des constructeurs. Il n'y a plus que 6 points d'écart entre Ferrari et Red Bull. La confrontation, sera très intéressante en Catalogne. Ça sera donc pas le week-end prochain, mais ça sera celui d'après. Donc on aura un autre fou du volant pour mettre les choses en perspective de nouveau. Je pense qu'on s'intéressera aux équipes du peloton, du milieu de peloton. Il y a aussi beaucoup de choses à dire. On a fait le tour, Stéphane. Juste vous dire que vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, lors du prochain épisode, eh bien, vous le recevrez directement sur votre smartphone. On a fait le tour ?
Je pense.
Bon,
Jean-Croix Damier.
Alors, on coupe le contact et puis on se dit la semaine prochaine.
Salut.
Ah, on l'a pas fait dans l'ordre. Bon, on a loupé, comme d'habitude.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.